curiosité, indiscrétion, révélation. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le Far West, Petra, le Machu Picchu, mais aussi la Cordillère des Andes. Quels sont les points communs de ces sites parmi les plus magiques de la planète? Les cartes. Les cartes qui ont permis de les situer et l'histoire des explorateurs qui les ont découverts. C'est ce que l'on vous raconte maintenant dans la curiosité avec notre invitée Francesca Matteoli. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes écrivain, voyageuse. Grâce à vous, on va sillonner le monde, mais je l'annonçais tout à l'heure. Allez, on commence par une route qui sent bon les vacances pour des générations de Français, la Nationale 7. C'est quoi? C'est la route des congés payés?
Oui, c'est la route des congés payés. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que mon livre, c'est un livre d'évasion, de voyage. La Nationale 7 en fait partie. C'est pas un livre d'historien, ni un livre de scientifique. Ce que je voulais, c'était surtout faire partir les gens, qu'ils s'évadent. Et donc, j'ai trouvé qu'en France, cette route était représentative de ça, c'est-à-dire un moment où on vit quelque chose de complètement différent, parce qu'à l'époque, les gens, je pense, pour moi, moi, en tout cas, qui suis étrangère, je suis chilienne, et donc pour moi, la Nationale 7, c'est le premier moment où les gens avaient un énorme moment de liberté, c'est-à-dire ils pouvaient partir, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient traverser la France. Les congés payés, c'est ça, c'est-à-dire subitement, on peut faire ce qu'on veut.
C'est une invitation au rêve aussi.
Oui, absolument, c'est une invitation
au rêve.
Cette
route-là qui descend jusqu'à la Méditerranée,
oui,
sur la Grande Bleue.
Et puis c'est vrai qu'il y a des étapes qui sont magiques quand on arrive en Provence et qu'on arrive dans cette allée de platanes. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vécu ça, j'ai trouvé que c'était formidable. Et il y a une anecdote à ce sujet, c'est que, par exemple, les gens, quand ils arrivaient à ce niveau de la Nationale 7, il y avait des personnes qui entendaient un bruit étrange dans leur moteur et qui se demandaient ce que ça pouvait être. Et ils s'arrêtaient sur le bord de la route parce qu'ils n'avaient jamais entendu ça. Ils pensaient que leur voiture était déglinguée ou il y avait quelque chose à réparer. Et en réalité, c'était le bruit des grillons qu'ils entendaient pour la première fois. Et je trouve que ça, c'est formidable parce que c'est poétique en diable. Mmh. Et donc, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi en racontant cette histoire et qui, moi, me parle beaucoup, c'est que c'est aussi des histoires humaines, c'est-à-dire des gens qui non seulement se préparaient à ce voyage, c'est-à-dire il y avait l'arrêt de l'école, les enfants qui commençaient déjà à rêver en sortant leur canne de pêche, leur maillot de bain, les pères qui étalaient la carte sur le capot de leur voiture en imaginant...
Ça me rappelle des souvenirs.
Voilà, ça rappelle
les pères et les mères qui s'engueulaient autour de la carte aussi.
Ah, ça aussi, ça rappelle des souvenirs, ça.
Oui, ça c'est bien, c'est des bons souvenirs aussi. Oui. Et puis, c'est vrai que les gens faisaient des rencontres avec des gens qu'ils n'auraient jamais imaginé connaître autrement. Ils s'arrêtaient sur le bord de la route, ils étalaient une nappe, on avait fait des pique-niques, tout ce genre de choses, parce que c'était quand même une épopée aussi dans le sud de la France où il pouvait se passer un million de choses.
La Nationale 7 chantée par Charles Trenet, évidemment.
Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7.
Cette Nationale 7, c'est une route historique. Comment s'appelait-elle du temps des Romains?
Alors, du temps des Romains, elle s'appelait la Via Aurelia. D'ailleurs, Charles Trenet en parle sans en parler, c'est-à-dire quand il dit dans sa chanson qu'elle va de Rome à 7, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle partait de l'Italie pour arriver en France. Et puis, c'est vrai qu'elle a une histoire qui remonte bien avant l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'après avoir été la voie romaine, elle a été aussi la route qui a été plus ou moins inventée par Louis XI. Alors, Louis XI, c'était un roi, moi, qui me plaît beaucoup, parce que c'était un grand futé. Il avait compris avant tout le monde que la communication, c'était très important.
Qu'est-ce qu'il a développé alors?
Pardon?
Qu'est-ce qu'il a développé?
Eh ben, il a développé la route justement en inventant les relais de poste. Et d'ailleurs, on dit qu'il a inventé la poste parce qu'il a compris qu'il devait se faire voir de ses sujets. Et pour ça, aller de lieu en lieu et de relais de poste en relais de poste pour que les gens le connaissent. Et pour cela, eh bien, il a inventé tous ces relais qui, à fur et à mesure d'ailleurs, sont devenus des auberges, voire des grands restaurants. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui font partie de la Nationale 7 et qui sont des endroits où on adore s'arrêter et qui sont des anciens relais de poste. Justement.
Francesca Matteoli, vous racontez toutes ces histoires dans Map Stories, histoire de cartes publiées aux éditions Duchesne. Vous êtes chilienne, vous nous le disiez. C'est votre grand-père chilien qui vous a donné la passion des cartes, c'est ça?
Oui, j'avais un grand-père qui était un amoureux de la géographie, un arrière-grand-père arrière-grand-père aussi, parce qu'en fait, le Chili, c'est un pays où la géographie a une énorme importance. Quand on est en France, on est au centre du monde, il se passe énormément de choses en France, donc on a du mal à imaginer peut-être qu'il y ait des pays qui, eux, sont complètement isolés, et le Chili est un pays...
coincé entre la mer, voilà, et la cordillère des Andes, c'est ça ?
Absolument, voilà, d'accord. Il est totalement coincé, et en plus, la population se regroupe au centre du pays, qui fait 4000 km, plus de 4000 km de long, donc autour de Santiago, donc c'est, les gens sont doublement isolés. Et quand on est isolé comme ça, on se passionne pour le monde. Mes parents adoraient la France, ma mère est écossaise, mais elle adorait la France aussi. Mon père, mes grands-parents aussi, sont tous décédés à Paris d'ailleurs. Et ils suivaient les mouvements de ce qui se passait en Europe sur les cartes. Et ils ont suivi d'ailleurs tous les mouvements des guerres sur des cartes en mettant des points partout pour suivre le mouvement des troupes.
Et Francisca, justement, derrière chacune de ces cartes, il y a une histoire. Par exemple, dans votre pays, le Chili, ce sont les destins des grands pilotes de l'aéropostale. C'est ça, on est dans les années 20. Est-ce qu'ils ont des cartes précises pour survoler cette fameuse cordillère des Andes ?
Non, ils n'ont rien. Nada de nada. Ils n'ont pas de cartes, ils n'ont rien. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, parce que justement, dans toutes mes histoires, moi, j'adore l'aventure, j'adore l'évasion, j'aime les choses que je ne connais pas, et toute l'aéropostale, pour moi, résume ce que devrait être une carte, justement. Ça se passe dans les airs, mais pour moi, ça se passe aussi sur Terre, en imagination, parce qu'une carte, ça doit faire s'envoler, que l'on parte ou qu'on ne parte pas.
C'est-à-dire qu'ils avaient des cartes dans la tête, ces pilotes, c'est ça ?
Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, les premiers, c'était du vol à vue. Donc, ils voyaient un trou entre deux montagnes, ils fonçaient dedans, ou alors ils suivaient des rivières, ou ils suivaient des routes de chemin de fer.
Est-ce qu'ils ont, par leurs expéditions, permis d'affiner les cartes de cette région du monde ?
Oui, parce que, par exemple, Jean Mermoz, un des grands héros de l'aéropostale, il a ouvert la route des Andes. D'ailleurs, il a eu un accident mémorable, puisqu'il est tombé. Son avion a eu un problème de moteur et il est tombé en plein milieu de la cordillère des Andes. Et quand on voit les avions de l'époque, c'est-à-dire où le cockpit était complètement ouvert, les types, par exemple Jean Mermoz disait, je crois, que tout ce qu'il avait besoin pour voler, c'était d'un hublot ou d'une vitre propre. C'était ça, parce que les types, ils partaient, c'était un truc de folie, quoi. Et donc, quand il a eu cet accident, pour s'en sortir, tout ce qu'il a pu faire, c'est lancer son avion sur un ravin en espérant...
quasiment dans le vide, oui.
Bah oui, que l'avion décolle. Heureusement pour lui, ça a décollé.
Ouais. Partir vers l'inconnu, repartir de zéro, découvrir des terres inexplorées, c'est ce qui a poussé des millions d'Américains sur les routes du Far West. On vous raconte aussi leur histoire de cartes sur RTL.
Avec Florent Pagny, là où je t'emmènerai, avec ou sans carte ?
Ça,
avec
c'est
carte,
du voyage, ça.
C'est plus raisonnable. Et ça fait rêver.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Quand on parcourt la carte d'un pays ou d'une région, on n'imagine pas l'histoire de ceux qui les ont découverts, qui ont permis à des générations de voyageurs de savoir ensuite vers où ils allaient, en s'engueulant ou pas. C'est l'histoire de ces explorateurs que l'on vous raconte dans la curiosité avec notre invitée Francisca Matteoli. Vous êtes écrivain, voyageuse, passionnée par les cartes géographiques. Vous nous emmenez maintenant à la conquête de l'Amérique. Les pionniers qui sont partis à la conquête de l'Ouest, est-ce qu'ils avaient des cartes en main ?
Alors, ils avaient les cartes qu'avaient fait les pionniers qui étaient partis avant eux. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, et ce que j'ai trouvé vraiment poétique et humainement fort, c'est que on a du mal à imaginer que les Américains ne connaissaient pas du tout leur pays. C'est-à-dire, ils savaient pas.
Tellement vaste que.
Ouais. Oui, et puis ils imaginaient qu'il n'y avait rien en dehors des villes où ils habitaient. Et donc, quand ils sont partis, en ce qui concerne les pionniers, ce qui est extraordinaire, on l'a vu d'ailleurs dans les films de John Ford, on l'a vu dans Les Raisins de la Colère, dans beaucoup de contextes comme ça, littéraires ou cinématographiques, on voit que c'était des aventures terribles, que c'était des gens qui quittaient...
Qui étaient ces pionniers d'ailleurs ?
Il y avait toutes sortes. Vous aviez les aventuriers, les mavericks, les gens poursuivis par la police, les mormons, tous les gens qui cherchaient une meilleure vie,
les chercheurs d'or.
Oui, absolument. Ouais. Donc ça drainait quand même une population assez extraordinaire dans le sens propre du terme.
Ils n'arrivaient pas tous à rejoindre cet ouest Absolument. Mythique.
Ben, on raconte qu'il fallait pratiquement 6 mois pour faire certaines traversées qui étaient quand même, comme on l'a vu et comme on l'a lu, complètement inhumaines. On partait avec les enfants, on partait avec tout ce qu'on pouvait emmener. Et en même temps, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on créait les cartes en live. C'est-à-dire, pour la première fois, ce n'était pas des explorateurs qui partaient au bout du monde et qui revenaient avec des cartes qui allaient être en plus mal interprétées souvent par le cartographe, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont truffées d'erreurs. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait des grandes traversées.
L'écriture était un peu moyenne.
Oui, et puis que les gens ne parlaient pas la langue du pays, que déjà, ils traduisaient comme ils pouvaient. Tandis que là, les pionniers, ils racontaient les choses comme ils les vivaient, et donc la carte était faite directement. Donc les
pas
informations
à pas.
Étaient très précises. Ouais. Oui.
Francesca Mattioli, dans votre livre Map Stories, qui est publié aux éditions du Chêne, vous racontez l'histoire du président américain Jefferson, on est en 1804, qui envoie deux pionniers à la conquête de l'Ouest, la Lewis and Clark. Oui. Ils s'attendent à trouver quoi, Lewis and Clark ?
Ils s'attendent à trouver des mammouths, des mastodontes et autres bêtes ignobles. Ah oui, oui, oui. Non, ils sont persuadés qu'ils vont tomber en plein milieu de la préhistoire. Ah, oui, absolument.
C'est dire la méconnaissance de ce qu'était, ce qu'était l'Amérique. Donc, ces premiers cartographes, ce sont des aventuriers, forcément.
Ah oui. Et comment ? Mais même plus que ça. C'est des mavericks, comme on dit aux États-Unis. C'est vraiment souvent...
Ça veut dire quoi ? C'est quoi un maverick ?
Dehors la loi, des francs-tireurs, des types capables de tout. Il fallait être capable vraiment de tout à cette époque.
Est-ce que ça veut dire que ces cartes géographiques vont devenir en quelque sorte à la mode ? Il y en aura de plus en plus, on va même y indiquer... je sais pas, des infos comme des mines d'or.
Oui. Et puis aussi, il y avait les médecins, par exemple, qui partaient à travers le pays et eux, ils allaient indiquer les lieux où il y avait des épidémies. Il y avait aussi pendant la guerre de sécession, par exemple, pendant la guerre de sécession, il y a eu beaucoup de cartes de fête pour montrer l'avance de l'ennemi. Des choses comme ça. Ce qui est amusant là-dedans, c'est que il y a eu des cartographes à foison et des cartographes dont c'était pas du tout le métier et qui allaient à chaque fois trouver quelque chose qui, eux, les intéressaient. Donc, on se retrouve avec plein de cartes, avec plein d'infos qui concernent les uns et les autres et qui sont à chaque fois des petites histoires à raconter aussi.
L'Amérique qui deviendra, évidemment, au XXe siècle, la grande civilisation de l'automobile avec des routes mythiques comme la route 66. Qui a eu l'idée de cette route, Francesca Mattioli ?
Alors moi, ma théorie, donc que je développe dans mon livre, c'est que c'est Monsieur Ford qui en fait a développé cette route indirectement.
Dans le constructeur automobile.
Voilà, ouais. Le constructeur automobile, parce qu'en inventant sa fameuse Ford T, voilà, il a inventé cette voiture qui était la première voiture qui était construite à la chaîne. Et donc tout d'un coup, il a donné à des millions d'Américains la possibilité de partir.
Mais il fallait inventer la route. Qui va avec.
Absolument, parce que partir c'était une bonne chose, mais jusque-là il y avait surtout du désert, la Death Valley et compagnie. Donc où allait-on partir ? Et pour ça il fallait inventer une route.
Donc on est en 1926 en fait. Quand la route prend ce nom, c'est ça, si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans votre livre, il y a deux promoteurs qui s'appellent Avery et Pip Meyer.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'ils font en fait pour lancer la route 66.
Alors eux, c'est les plus grands malins finalement de la route 66, parce que d'abord, il faut dire qu'il se trouve dans Monsieur Avery, il se trouve dans l'Oklahoma, qui n'est pas du tout sur la trajectoire de la route 66. Oui. Alors là où l'histoire devient intéressante, c'est que ce monsieur se dit, moi je suis dans l'Oklahoma, la route 66 ne passe pas par chez moi, ce n'est absolument pas acceptable. Donc là, il se met à cogiter, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver pour que la route passe par chez lui et pour qu'on parle de lui. Et là, il invente une course qui va partir pour des kilomètres, qui va passer par l'Oklahoma. Et donc, évidemment, il va mettre tout en branle, tous ses amis, la publicité, les journaux, qui vont parler de cette fameuse course. Et le plus incroyable,
mais
c'est
c'était une course automobile ou une course à pied ?
C'était une course à pied.
Non.
Voilà, une course à pied, absolument
inouïe.
Combien de temps
il a mis le vainqueur ?
Eh bien,
c'est une bonne question. 80 jours, quelque chose comme ça.
Longtemps.
Oui, d'accord.
Il avait une carte, il ne s'est pas perdu.
la route 66 qui a également inspiré les Rolling Stones.
Louis, down to Missouri, all
Francesca Matteoli, la route 66, elle épouse ensuite le destin de l'Amérique, d'une certaine façon.
Oui, la route 66, c'est toutes les histoires dont on a entendu parler, c'est-à-dire c'est la beauté du début d'une route. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Et d'ailleurs, dans chacun de mes livres, c'est ce que j'essaye de raconter aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des histoires humaines qui sont tristes, gaies, amusantes, dramatiques aussi, parce que toutes ces cartes, elles montrent une chose quand on les regarde. Certaines sont magnifiques, et puis derrière, il y a des histoires complètement différentes. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris aussi en m'intéressant aux cartes, c'est que les cartes peuvent être trompeuses. Et donc cette route, eh bien, elle va passer aussi par les étapes dramatiques de l'Amérique, quand les gens fuient la misère, quand ils vont dans d'autres régions à la recherche d'une vie meilleure, quand il y a la Grande Dépression, dont a parlé Steinbeck dans Les Rosins de la Colère, par exemple, ou dans des films que nous avons vus. Et puis ensuite, il y a un rebondissement. Alors là, que moi j'adore, c'est toute la route avec les driving dans les années 50, les motels, les premiers McDo. Moi, l'étape que je préfère dans la route 66, c'est le coin de Santa Fe, parce que ça, c'est Easy Rider. Alors là, c'est l'Amérique à mort, à fond la caisse.
On peut toujours l'emprunter, la route 66
cette
aujourd'hui.
Partie existe toujours. Ouais. C'est sex, rock and roll.
On peut pas la descendre complètement, c'est ça?
Non, absolument.
Il reste quelques étapes.
Elle est coupée par tronçon, oui. Mmh.
Les cartes géographiques, elles ont longtemps oublié aussi certaines des merveilles de la planète, des merveilles bien caché, exemple Petra et le Machu Picchu.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
La curiosité, c'était bien une qualité des aventuriers qui ont dessiné les premières cartes du monde, ceux qui sont partis explorer des contrées lointaines pour en découvrir les merveilles. C'est ce que l'on vous raconte sur RTL avec notre invitée Francesca Matteoli qui publie Map Stories aux éditions Duchesne. Ces histoires de cartes, Francesca, ce sont aussi des histoires de sites mythiques. Par exemple, Petra, qui est restée cachée d'une certaine façon pendant des siècles, qui avait aucune carte qui indiquait la position de cette ville ?
Non, surtout parce que les Nabatéens qui ont créé ce site, en fait, n'avaient aucune envie que le site soit connu, ce qui est une bonne raison.
Oui.
Et donc, pendant des siècles, ils ont fait en sorte que personne n'ait envie d'y aller. C'était la route des caravanes.
C'est qui les Nabatéens ? C'était des voyageurs, c'était des voyageurs, c'était, si je me souviens bien ce que j'ai lu dans votre livre, c'était des commerçants, voilà.
Absolument.
Qui ont fait fortune.
Absolument.
Des nomades commerçants, voilà.
Des nomades
très précisément.
Commerçants, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que donc.
Mais qu'est-ce qu'ils font pour qu'on ne vienne pas dans leur ville? Ils érigent des murs, ils cachent leur.
Alors, d'abord, tout le monde
se soustraire au monde comme ça.
Oui, alors d'abord les bruits qui couraient, parce qu'en fait c'était un peu comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que d'abord, ils n'en parlaient qu'entre eux. Les gens qui avaient des caravanes, qui avaient des marchandises, qui cherchaient un point d'eau, ils savaient qu'ils pouvaient aller là, mais c'était seulement eux qui le savaient. Et ensuite, ils savaient bien qu'il ne fallait pas qu'ils en parlent. Et puis, les bruits qui couraient, puisque à fur et à mesure, évidemment, on a commencé à parler de cette cité qui est gigantesque, disaient toujours que c'était extrêmement dangereux d'y aller. Donc, tous les gens qui n'étaient pas dans ce groupe de marchands évitaient de s'y aventurer.
Et pourtant, il y a bien un jour où un homme ou une femme, un explorateur ou une exploratrice a découvert le site de Petra.
Oui, alors un jour, à force d'en parler, il y a un aventurier, enfin, si on peut dire ça, un jeune Suisse, en fait, qui vivait une vie plutôt malheureuse en Suisse et qui a décidé d'aller en Angleterre. Et en Angleterre, comme quoi les aventures et les découvertes, et c'est ça que j'aime aussi et que j'ai raconté dans mon livre, sont souvent dues au hasard. Comme dans la vie, quelquefois, on tombe sur la bonne personne et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe hors du commun. Et lui, il tombe sur ce directeur, ce président d'une société de géographie. C'est à l'époque où les sociétés de géographie se bagarraient entre elles pour découvrir certains sites. Et alors lui, il avait déjà envoyé des gens s'approcher du lieu, mais la plupart n'en étaient pas revenus. Donc il était un peu échaudé. Et quand il voit ce jeune Suisse tellement enthousiaste et tellement avide de gloire et de richesse, il se dit, tiens, là peut-être celui-là c'est le bon, je vais le garder, je vais l'envoyer là-bas. Mais ce qui est amusant dans l'histoire, moi j'ai trouvé, c'est que à ce Suisse, on lui a fait subir une formation digne de James Bond ou d'un espion.
Pour infiltrer l'endroit.
Voilà,
Petra.
Pour infiltrer l'endroit.
On est en 1812.
Voilà, alors ce qui est incroyable, c'est qu'à cette époque, on est pensé donc à former quelqu'un comme un véritable espion.
Ça va lui servir quand il va, il va découvrir Petra.
Ah oui, ça va beaucoup lui servir parce qu'on l'a formé à la mentalité, à la langue, à comment se conduire. Quand il va arriver là-bas, il va être habillé en homme modeste pour ne pas attirer l'attention. Mmh. Il va trouver un guide qui, au début, croit dans son histoire. Il raconte qu'il doit déposer une offrande. Donc, tout ça est bien enveloppé. Et puis, à fur et à mesure, malheureusement, il commence à un peu se laisser aller parce qu'il est de plus en plus exalté par le lieu qu'il voit. Il a attendu ce moment.
Il faut décrire Petra pour
voilà, parce qu'on arrive.
Ceux qui n'y sont jamais allés comme moi.
Oui, oui.
C'est un site magnifique.
C'est magnifique.
Il y a un temple, notamment, qui est creusé dans la roche, c'est ça.
Ouais. Voilà, qui s'appelle le Trésor. Mais avant d'arriver à ce temple, vous entrez dans une gorge qui s'appelle le Sikh, et cette gorge est coincée entre des rochers, et pendant environ une demi-heure, vous marchez dans le sable avec de chaque côté de vous des rochers qui vous enserrent. D'abord, la lumière est absolument extraordinaire, hein, pour des gens qui ont un sens poétique, ou même n'importe qui d'ailleurs, je pense qu'il n'y ait personne que je connaisse qui était à Petra sans être ébloui. Donc on a cette préparation qui est une préparation pratiquement spirituelle, hein, d'ailleurs.
Est-ce que c'est entre guillemets aventurier qui va découvrir Petra en 1812 qui va aussi créer la première carte du lieu?
Oui, il va créer la première carte du lieu. Il va découvrir aussi les autres sites à côté. Enfin, il va pas noter parce qu'il ne pourra pas noter dans son carnet puisqu'il cherche à tout retenir de mémoire. Mais ce qu'il va rapporter, en tout cas, c'est des choses que personne ne connaît en Europe. Mmh. Oui.
Et c'est ce que vous racontez, Francesca Matteoli, dans votre livre Map Stories, histoire de cartes, qui est publié aux éditions Duchesne.
Un livre magnifique.
Ah, c'est vraiment un très beau livre à feuilleter. C'est une invitation au voyage, hein, c'est ce que
Merci,
vous nous avez dit. On n'a pas eu le temps de parler du Machu Picchu, mais il est dans votre livre et c'est une très belle histoire aussi à raconter comment ce site est resté caché, notamment quand les Espagnols les conquistadors ont débarqué dans la région. Merci beaucoup, Francesca Matteoli.
Vous en prie, c'était un plaisir.
C'était un plaisir.
Merci. Vous pouvez nous podcaster sur rtl.fr et sinon vous nous retrouvez demain avec un beau programme.
Tiens, l'histoire de la marine avec un conteur exceptionnel, membre de l'Académie Goncourt, Didier Decoin sera notre invité.
Nous allons découvrir ensemble aussi demain la vie et les films du grand Woody Allen, et puis on vous racontera aussi l'histoire des libertaires. Ils vont peut-être habiter bientôt dans un pays qui dessine à peine ses contours entre la Serbie et la Croatie.
Ouh, ça promet d'être passionnant. Tout de suite, c'est l'heure de RTL Grand Soir. Agnès Bonfillon et Christophe Paco,
salut,
bonne soirée à tous. Salut à tous. RTL, il est 22h.
Vous écoutez RTL.